Hélène.
Alors Christine, tu sais que la MQCV travaille avec ses partenaires sur l'égalité femmes-hommes.
Oui.
Et d'après notre récente conversation, cette volonté de prendre en main et de choisir sa vie a été maintes fois mise en évidence dans notre histoire, dans l'histoire, par des femmes qui n'acceptaient pas le statut de dame inféodée à son époux. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, puisque nous avons choisi de parler de notre première comtesse du Hainaut, qui apparemment était une comtesse qui ne s'en laissait pas compter, si je puis dire.
Non, oui, même un peu sanguinaire sur les bords.
Ah oui, carrément. Alors, on t'écoute.
Alors, cette Richilde, c'est vrai qu'on la connaît beaucoup moins que Jeanne de Flandre ou Marguerite de Flandre, mais pourtant, elle a eu son histoire. Elle était bien assise sur ses principes et sur sa façon de gouverner. Parce qu'à l'époque, il faut se dire, donc on est au XIe siècle.
D'accord. Hein,
donc, en Occident, on peut dire que le XIe siècle, c'est un siècle de violence, en général. Donc, d'ailleurs, il y a Georges Duby, tu sais, qui a écrit beaucoup sur le Moyen-Âge, et qui a parlé du mal Moyen-Âge. Ça veut dire mal étant entendu au sens de viril, et même de rude, de brutal. Hein. Et c'était aussi la période, n'est-ce pas, des croisades, hein, donc qui vont aussi perdurer au XIIe et XIIIe siècle. Donc, c'était pareil en Hainaut. En Hainaut, c'était, on va le voir, c'était un siècle. C'était pour le Hainaut un siècle de violence et de... Ben, il fallait se défendre. Donc, mais il faut se dire que dans le Hainaut, et c'était pas comme les rois de France, par exemple, c'était pas le garçon.
Le premier-né, d'accord, hein,
voilà,
qui succédait.
S'il n'y avait que des filles, et ben, c'était la fille.
Mm-hmm. Hein,
donc, c'est pour ça que c'était... Richilde, par exemple, de qui on va parler, on peut dire que c'était un chef d'État. Elle va naître à une date qui est pratiquement inconnue, mais on peut la situer vers l'an 1018. Donc, elle était la fille unique de Régnier IV, qui était le 11e comte de Hainaut. Hein. Et elle était aussi la fille de Mathilde de Brabant. Donc, de son enfance, de sa jeunesse, on ne sait rien. Elle devient comtesse de Hainaut en 1029, à la mort de sa mère Mathilde. Parce que quand son père meurt, Régnier, donc quand Régnier meurt, elle n'a pas 11 ans. En gros, elle n'a pas 11 ans, c'est encore une enfant.
Mm-hmm.
Donc, eh bien, c'est la mère qui va régner à sa place. Hein. Donc, quand elle meurt, Mathilde, eh bien, elle devient comtesse de Hainaut. En 1035, on n'est pas tout à fait sûr, mais on dit encore vers 1035, elle épousa Hermann, qui était comte de Saxe et des Ardennes. Hein. Donc, Hermann devient donc comte de Hainaut. En épousant la comtesse de Hainaut, il devient comte de Hainaut. Il va mourir, malheureusement, assez tôt, vers 1048. Donc, Richilde, c'était la mode à l'époque, elle va porter le deuil et elle se retire en son château de Mons pour y passer ce qu'on appelait son temps de deuil. Donc le château de Mons, parce que Valenciennes et Mons étaient liés, si tu veux. Le Mons, c'était pour tout ce qui était un peu politique, hein, les grands rassemblements, ça se faisait aussi à Valenciennes. Mais donc ils avaient vraiment deux villes.
C'était un peu la capitale politique, oui.
New York, si
d'accord.
Tu veux. Mmh. Hein, voilà. Donc elle se retire dans son château de Mons pour y passer son temps de deuil. En 1049, il y a aussi l'histoire de son enlèvement. L'histoire de son enlèvement par le comte Baudouin V de Flandre. Hein, à l'époque, le Hainaut et la Flandre ne sont pas encore unis. Hein. Donc le comte Baudouin de Flandre voulait lui faire épouser son fils, Baudouin VI. Alors c'est à ce moment-là que il va enlever Richilde pour l'emmener et la faire épouser son fils. C'est une méthode assez répandue à l'époque, mais c'était souvent de la mise en scène. Donc il imaginait, et ça s'est passé pour Richilde, on lève une armée et l'armée vient assiéger le château où se trouve la future mariée. Et donc, on explique qu'on l'a enlevé pour l'obliger à se marier. Mais en fait, la future mariée est tout à fait consentante. Et elle épouse, sans qu'on la force, celui qu'on lui a désigné. Mais c'était une pratique très courante. Comme ça, la famille, si tu veux, ben, la famille acceptait l'arrivée de ce nouveau membre de la famille sous l'apparence d'un mariage forcé, et qui n'est pas du tout forcé, parce que ici, elle était consentante pour épouser le fils du comte de Flandre. Le mariage a lieu à Mons le 27 décembre 1051. Le fils de Baudouin V devient alors comte de Hainaut sous le nom de Baudouin Ier de Hainaut. Donc, du fait, Richide devient aussi comtesse de Flandre. Mmh. Hein? Donc, pour la première fois, la Flandre et le Hainaut sont rassemblés. Bon, ça ne durera pas toujours, mais enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Elle, donc, son second mari, Baudouin, Richide avait décidé d'écarter du pouvoir les enfants qu'elle a eus de son premier mariage avec Hermand, Roger, son fils aîné, qui normalement devait lui succéder. Et puis, une fille, Gertrude, elle va les persuader, ça n'a pas été très difficile, pour le garçon d'entrer dans les ordres. C'était un garçon boiteux, assez malingre, qui n'avait pas du tout conscience de pouvoir diriger un pays. Donc, elle l'a facilement décidé à entrer dans les ordres. Mmh. Il deviendra d'ailleurs évêque de Châlons. Et puis la fille, donc Gertrude, elle va entrer dans une abbaye bénédictine. Ces deux enfants-là sont placés. Hein. Alors, du second mariage, donc celui avec Baudouin, ils vont naître deux fils, Arnould Baudouin. Donc, Baudouin Ier de Hainaut va mourir en 1070 et il est enterré en l'église d'Annon, un petit village ici à côté de Valenciennes, parce qu'il y avait l'abbaye d'Annon et il avait en sortie de sa cassette l'argent nécessaire pour restaurer cette abbaye. Pour cette raison, en son honneur, on l'appelait souvent Baudouin d'Annon. Donc il meurt et donc il sera enterré à l'abbaye d'Annon. Et ils y sont peut-être toujours, hein, parce que l'abbaye d'Annon a été abattue, mais on n'a jamais retrouvé les catafalques. Mais avant de mourir, il a eu l'idée géniale, qui va amener plein de vilaines choses, de faire un testament. Donc il a deux garçons, Arnould et Baudouin. Donc dans son testament, il va donner à Arnould, il y a 15 ans, la Flandre, et le Hainaut, il va donner au petit frère Baudouin. Mais c'est ça qui va mettre le feu aux poudres, si on veut, parce que Richilde ne va pas accepter. Richilde veut être entièrement tutrice de Baudouin et d'Arnould, et devenir comtesse de Flandre et de Hainaut. On peut dire que c'est Richilde la belliqueuse, parce qu'elle en a fait des guerres. Donc, à partir de ce moment, va commencer pour Richilde une autre existence. Hein. Elle veut s'imposer comme le chef du nouvel état de Flandre-Hainaut. Baudouin avait, avant de mourir, confié la tutelle du petit Baudouin, qui est encore un petit garçon, tout petit garçon, c'est Robert le Frison, qu'on l'appelait Robert le Frison, donc qui est un frère de Baudouin premier. C'est avec lui que Richilde va constamment se battre, parce qu'elle veut récupérer la Flandre, bon, et vaincer Robert. Mais Robert, d'un autre côté, il voudrait bien aussi incorporer le Hainaut à la Flandre qu'on lui a désignée. Donc ça va toujours être prétexte à faire des guerres, et des guerres très sanglantes. Donc elle va lever une armée. C'était vraiment un militaire en même temps, hein, Richilde. Elle va lever une armée et elle va s'approcher dans la région de Cassel. Il y a d'ailleurs une phrase d'un historien qui dit « Richilde n'était pas femme à reculer à l'heure des combats. Elle était générale et chargée habituellement à la tête de ses troupes. » Et elle chargée, et ça jusqu'à presque sa mort, hein, jusqu'à 70 ans, elle a fait ça. Hein. Elle avait d'ailleurs fait appel, des appuis assez importants, au roi de France, qui était alors Philippe Ier, et au roi d'Angleterre, qui était Guillaume le Conquérant. Ce sont des amis pour elle, elle va pouvoir agrandir son armée et sa puissance. Donc le 22 février 1071, a lieu à Cassel une bataille très sanglante entre les deux armées. Richilde va être battu. Et en plus, au cours de cette bataille, Guillaume et son fils Arnould vont être tués. Hein. Parce que Guillaume, en fait, c'est son troisième mari. Après la mort de Baudouin, elle épousera Guillaume, qui n'a pas eu énormément d'importance, mais il a quand même participé à la bataille de Cassel, mais il va y trouver la mort. Et elle-même, elle va être faite prisonnière. Mais elle ne va pas rester longtemps prisonnière, parce que comme Robert le Frison a été aussi capturé par les troupes de Richilde, ben il va y avoir un échange. Cette bataille, il y a une nouvelle bataille qui va se livrer à la Broquerie. Bon, c'est près de Mons, hein, c'est un lieu dit près de Mons qui existe toujours. Elle fut de nouveau vaincue après un sanglant combat qui a laissé son nom dans l'histoire. On l'a appelé les haies de la mort, ou bien les mortes haies, ou encore les bonniers sanglants. Donc par la suite, bon, elle est vaincue encore une fois, et il va toujours y avoir quelques escarmouches. Des escarmouches qui sont tout près de chez nous, donc c'est à Wavrechain sous Wavrechain, ou Denain. Richilde va être contrainte de demander la paix. Donc son fils Baudouin, le petit Baudouin, il a grandi bien sûr, et c'est devenu Baudouin II, hein, qui va partir en croisade en Terre Sainte. Donc finalement, malgré sa décision d'être comtesse de Flandre et de Hainaut, pour l'instant, ça ne se fait pas. Alors, qui était Richilde, après tout ça, qui était Richilde? Eh bien, c'était une femme entreprenante jusqu'à la témérité, vindicative jusqu'à la cruauté, et si ambitieuse qu'elle sacrifia à cette terrible passion son repos, ses états, son honneur et la vie de ses enfants. Alors, il y a un épisode aussi qui prouve comment était Richilde, c'est que du côté de Mons, enfin toutes ces régions, Mons, les villes aux alentours, vont décider d'essayer de raisonner Richilde. Donc il va se former, par exemple à Mons, un petit groupe de gens, de chevaliers, seigneurs, qui vont être députés pour aller à Valenciennes, pour raisonner Richilde, et puis il y aura aussi d'autres petites îles. Donc on dit à Richilde, ben voilà, ça doit être Ypres, je crois. Voilà ceux de Ypres qui veulent vous parler. Richilde se doute bien de quoi ils veulent parler, mais elle ne veut rien entendre, elle ne veut pas être embêtée. Donc elle leur dit, ben, sitôt qu'ils arrivent aux portes de la ville, vous leur coupez la tête. Tout le monde a sa tête coupée. Alors évidemment, ceux qui devaient arriver, ceux de Mons, ils n'osent plus avancer vers Valenciennes, donc ils retournent dans leur pénate. Hein. Donc c'est vraiment pour montrer que Richilde, elle ne veut pas s'embarrasser. Puis ça prouve bien que malgré tout, elle avait un ascendant sur les hommes. Hein. Parce que finalement, elle est la seule femme là, dans le milieu qui se débat. Hein. Quand même, tu sais, à l'époque, bon, la religion avait énormément d'importance, et quoique elle soit brutale, ça ne l'empêchait pas d'avoir la crainte de Dieu et de redouter la damnation éternelle. Elle va faire le mal en tranchant la tête, en faisant des combats sanglants, mais d'un autre côté, elle va être gentille. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, elle va accorder des droits aux marchands de Valenciennes, par exemple. Donc, elle va se rattraper comme ça. Elle va leur donner des droits, des privilèges, pour que Dieu, là-bas en haut, dise, bah, finalement, c'est une brave femme quand même. Hein, voilà. Donc, il y a d'ailleurs une charte qui va être écrite. C'est un code de vie, une charte, un code de vie sociale, d'affranchissement aussi. Donc, le texte est en latin, il sera traduit en roman, c'est-à-dire en langue un peu comme aujourd'hui, au XIVe siècle. Donc, c'est un premier acte de la formation de ce qui deviendra la bourgeoisie marchande valenciennoise. Donc, il sera ratifié par Baudouin III beaucoup plus tard. Au point de vue administratif, Richide a mis sur pied tout un dispositif pour mieux établir son autorité sur le comté. Donc, c'est toujours André Juvénile qui dit « C'est au temps de Richide et de son fils Baudouin qu'on créa les pères du comté, pères, P-I-R-S, les pères du comté de Hainaut. » Voilà. On ne peut pas dire, je parle de Valenciennes parce qu'on est Valenciennes, mais elle a fait beaucoup de choses aussi dans toutes les terres qui, à l'époque, n'étaient pas la Belgique, c'est-à-dire Mons, Bruges, tout ça. Elle a fait beaucoup aussi pour ces villes. Donc, avec Baudouin II, là, on peut peut-être en parler parce que c'est très local. À l'époque, va se bâtir à Valenciennes une église extraordinaire qui s'appelait Notre-Dame-la-Grande. C'était une église, c'était pas une cathédrale, mais c'était vraiment une église merveilleuse, la plus belle église du Hainaut, disent les historiens de l'époque. Et donc, elle se situait sur la place du 8 mai. L'entrée de Notre-Dame-la-Grande se trouvait de l'autre côté. Donc, c'était une église merveilleuse et ils vont commencer les travaux, ils vont faire plein de choses, des jolies choses, des vitraux et tout. Puis arrivé un moment, il n'y a plus de sous. Alors, on est obligé d'arrêter les travaux. Richide et Baudouin II vont ouvrir leur cassette et ils vont donner l'argent qui manque pour terminer Notre-Dame-la-Grande. Donc après, il y a toute une histoire. France sera démantelée à la Révolution, évidemment, comme beaucoup de lieux religieux. Mais si on a eu Notre-Dame-la-Grande, c'est un peu aussi grâce à la générosité, faut le dire, de Richide et de son fils Baudouin. Richide, elle commence quand même à vieillir. Elle a beaucoup de... Elle est toujours aussi vindicative de tempérament, mais on dit toujours, nous on le dit aussi, le corps ne suit pas toujours l'esprit. À 70 ans passés, elle était encore à la tête de ses troupes, en armure, et puis elle menait le combat. Et elle pouvait rester toute une journée sur son cheval. Elle était endurante, oui. Elle est partie en pèlerinage dans la ville éternelle, c'est-à-dire à Rome. À son retour, elle va se retirer dans une cellule de l'abbaye de Messine, une abbaye qui n'existe plus. Donc elle a vraiment tiré un trait sur la vie politique, la vie de militaire, et elle se consacre uniquement à Dieu. Donc elle va se retirer. Maintenant, Baudouin II est bien installé. Donc on s'aperçoit que la comtesse Richine, c'est plus le soldat, elle va jeûner, et puis elle va donc un peu à la fois s'affaiblir, et elle mourra le 15 mars 1086. Les caveaux des deux époux ont été découverts fortuitement en 1811. On faisait des fouilles, il restait quelques vestiges de l'abbaye, et on a découvert, du moins, les deux catafalques, celui de Baudouin et celui de Richide. Elle fut la première femme forte de ce comté de Hainaut qui devait en compter un bon nombre par la suite.
Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Christine, pour cet éclairage sur une période pas très simple à vivre. On se retrouve très bientôt, avec toujours autant de plaisir. Merci à toi.
Au revoir, Hélène.